Bonjour Mehdi Lopez, vous êtes technicien forestier à l'Office national de forêt. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Bonjour. Donc effectivement, je suis technicien à l'ONF depuis maintenant 8 ans dans le Vercors. J'ai exercé dans d'autres secteurs, mais pour ce qui nous concerne, ça fait maintenant 8 ans que je suis ici. Je suis en charge de 3 forêts communales pour une surface cumulée d'environ 2500 hectares. Et je travaille au sein d'une équipe de 9 techniciens sur une unité territoriale qui couvre tout le Vercors Nord, c'est-à-dire le Vercors isérois, sachant que le Vercors, le massif forestier du Vercors, c'est un massif de 125 000 hectares qui part de la Drôme jusque dans l'Isère. Donc nous, on gère une partie congrue de ce territoire forestier et on gère les forêts publiques du Vercors, à savoir les forêts des communes et les forêts de l'État. Voilà.
Quel est votre rôle du coup concrètement à l'ONF ?
Alors, à l'ONF, le technicien forestier, il est, j'ai envie de dire, multifonctionnel. On assure la gestion forestière pour le compte des collectivités. Donc, on est en relation régulière avec les élus qui sont propriétaires des forêts. On va programmer les coupes forestières. On va participer au marquage de ces coupes. C'est une opération qu'on appelle le martelage. On va également programmer les travaux et proposer des travaux forestiers aux communes. Ça peut être des travaux d'entretien de limites, des travaux d'entretien de dessertes forestières, des travaux de plantation. Enfin, je ne vais pas faire toute la liste. On a aussi un rôle important de police et de surveillance. On est assermenté à ce titre-là. On doit faire respecter un code particulier qui s'appelle le code forestier, comme il y a le code de la route, le code civil, etc., le code pénal. Il y a un code forestier. Et donc, on est à même de verbaliser des contrevenants, des délits qui vont à l'encontre de ce code forestier et au code de l'environnement. On a aussi une mission importante d'accueil du public. Donc, on va accueillir des groupes en forêt, on va accueillir des scolaires. On a une mission de communication comme celle que je fais présentement pour présenter notre métier. On a aussi des missions plus environnementales. Donc, en fait, on va... contribuer à des comptages de faune sauvage. On va faire l'état des lieux de la végétation, compter de la faune ou de la flore menacée, des choses comme ça, en partenariat avec des partenaires comme le parc naturel du Vercors ou d'autres organismes. Voilà, donc on a des missions assez diversifiées. Donc en résumé, si vous ne voulez pas vous ennuyer dans la vie, bah, venez travailler à l'ONF. Voilà. Après, il y a d'autres missions à l'ONF, je ne vais pas m'attarder dessus, mais un forestier qui travaille sur le littoral ne va pas du tout avoir les mêmes missions que moi, un forestier de montagne, ou qu'un forestier qui est dans le sud de la France, qui va beaucoup travailler sur la thématique des incendies forestiers ou des choses comme ça. Voilà.
Observez-vous depuis quelques années des changements au niveau des forêts du Vercors en lien avec le changement climatique ?
Bonne question, merci de l'avoir posée. Alors oui, clairement, l'adaptation de nos forêts au changement climatique, c'est l'enjeu majeur de la foresterie du siècle qui vient. Concrètement, dans le Vercors, on observe un effet un peu retard par rapport aux dégâts qui sont déjà observés sur le territoire métropolitain. Par exemple, si vous allez dans le Bugey, en Belledonne, il y a des pans entiers de forêts qui sont en train de mourir. Hein. Silencieusement, puisqu'on n'entend pas un arbre mourir, ça ne fait pas de bruit. Mais ça va à une vitesse prodigieuse. Les forêts de montagne sont majoritairement constituées de résineux, hein, pour 80%, en général 80-85%. Et ce sont des arbres, en l'occurrence pour les citer l'épicéa et les sapins, qui ont de très hautes exigences en termes de pluviométrie, c'est-à-dire d'eau, et de fraîcheur. Et tout ça, ça va très mal avec un paramètre et des prévisions qui nous disent que le changement climatique qui vient, qui est réparti sur l'échelle du globe à environ 3 degrés d'ici la fin du siècle, eh bien en fait, il va être plus sévère en montagne que nulle part ailleurs. Sur la surface des océans, on va avoir peut-être plus 2 degrés. Sur le littoral, plus 3-4 degrés. En montagne, on prévoit plus 7 degrés à l'horizon 2100. Ça, c'est simplement catastrophique pour l'environnement forestier. Lors des précédents changements climatiques que notre histoire a connus, les glaciations, les réchauffements, La faune et la flore ont une capacité d'adaptation bien plus ample et plus aisée. Pourquoi ? Parce que ces glaciations se sont étalées sur des millénaires, voire des centaines de milliers d'années. Donc, de proche en proche, les arbres avaient la capacité, avec la fructification, de remonter ou de redescendre en latitude ou en altitude. Seulement, la course contre la montre qui est engagée aujourd'hui, elle est très défavorable aux arbres. Le réchauffement climatique va beaucoup trop vite. Les arbres n'ont pas le temps de remonter, par exemple, du littoral méditerranéen jusqu'à nos montagnes. On le sait, on connaît leurs exigences écologiques. Et on connaît la courbe de réchauffement de température qui ne leur laissera aucune chance si les pires prévisions du GIEC s'avéraient réelles. Alors, du coup, effectivement, on observe des dépérissements massifs qui sont assez spectaculaires du point de vue paysager. Ces dépérissements sont directement liés au stress hydrique, mais aussi indirectement liés à l'apparition de ravageurs qui vont profiter de l'affaiblissement des arbres. Donc, il y a par exemple un insecte, un coléoptère qui est très connu, qui s'appelle le scolyte, qui va se fixer sur les épicéas qui ont été affaiblis par le changement climatique. Et de proche en proche, il va atteindre tous les autres épicéas, même ceux qui ne sont pas malades. C'est ce qui va expliquer des mortalités très spectaculaires dans les régions que je vous ai citées. Dans le Vercors, donc, on a un effet retard. On a quand même des îlots de dépérissement. On les suit, on les repère. On essaye de couper un maximum d'arbres malades pour éviter qu'ils ne propagent la maladie à leurs congénères. Mais ce n'est pas les seules stratégies qu'on a pour évidemment endiguer tout ça. On essaye de maintenir, dans la mesure du possible, des peuplements forestiers le plus mélangés possible. Parce que vous savez, il n'y a rien de pire que d'avoir une forêt composée d'une seule essence d'arbres. Si vous faites une plantation d'épicéa, vous faites la pire bêtise qui soit en termes de pari pour votre forêt. Les arbres ont tous sensiblement la même génétique, sont les uns sur les autres, et quand un parasite va se mettre dedans, tous les autres vont tomber malades. Donc on va essayer de favoriser le mélange d'essences et de favoriser aussi une gestion forestière qu'on va appeler à couvert continu. C'est-à-dire qu'on va avoir une futaie irrégulière avec des arbres jeunes, moins jeunes, des vieux, des très vieux. On ne coupera que quelques arbres au sein de cette forêt et on s'assurera qu'il y ait toujours, toujours un couvert forestier, une ambiance forestière. On essaye aussi, dans la mesure du possible, d'aider la migration des essences, puisque, comme je vous l'ai expliqué, elle n'était pas de taille pour résister au changement climatique. Et on introduit un certain nombre d'essences par plantation au sein de nos parcelles qui sont plus adaptées au changement climatique. Donc des essences feuillues notamment, parce que les feuillus ont une meilleure adaptation au changement climatique. Et en grande partie, ces plantations, elles n'ont pas pour objectif de faire des peuplements qu'on va exploiter pour faire de l'argent d'ici 60, 80, 90 ans ou un siècle, mais de faire les futurs semenciers de l'avenir, c'est-à-dire des arbres adultes qui vont pouvoir se reproduire. Voilà. J'ai été un petit peu long dans mon explication. La question de départ, c'était: est-ce que vous observez des changements climatiques ? Donc la réponse, tu vois, elle n'est pas simple. Elle demanderait même plus longtemps pour être étayée. J'ai essayé d'être plus synthétique possible.
À cause du changement climatique, certains animaux migrent vers le nord. Est-ce la même chose pour des espèces végétales ?
Alors j'ai déjà un peu en partie spoilé ta question, j'en suis bien désolé. Mais oui, la réponse est oui. Alors, elle ne migre pas de la même façon, puisque un arbre, par définition, c'est enraciné, donc ça ne peut pas bouger. Ça migre par reproduction. L'animal, lui, il va prendre la poudre des escampettes simplement avec ses pattes. Donc il va migrer en altitude assez librement, sauf s'il y a vraiment des barrières infranchissables. Alors l'arbre, lui, simplement, c'est ses semences qui vont permettre à son espèce de remonter en latitude et en altitude. Alors, sans m'étendre trop sur le sujet, les arbres, ils ont différentes... Le végétal, en général, il a différentes stratégies de dissémination de ses graines. Par exemple, vous avez le gland, il est très lourd, il tombe au sol. Qu'est-ce qui va le disséminer ? Le jet ou les animaux qui vont le consommer et le répandre un petit peu partout dans la forêt. C'est ce qu'on appelle la zoochorie. Bon. Vous avez des graines beaucoup plus légères. Dès qu'elles vont tomber de l'arbre, c'est le vent qui va les emporter, l'anémochorie. Je ne vais pas faire la liste exhaustive. Mais même avec ces modes de dissémination, même avec la dissémination par le vent, on sait que la distance parcourue par une graine et le temps qu'il va falloir à l'arbre pour pousser et devenir lui-même mature et faire lui-même des enfants n'est pas suffisant et n'est pas à même de rattraper la vitesse prodigieuse du changement climatique. Mais effectivement, ces arbres ont cette intelligence-là, si on peut dire, hein, en fait, cette capacité-là de migrer grâce à leurs graines en fait, qui vont être éparpillées un petit peu partout. Et seules les graines qui seront dans un environnement favorable vont évidemment s'émanciper. Hein. Mais un arbre qui est en plaine aujourd'hui et qui a 200-300 km à parcourir pour atteindre un environnement qui ne soit pas un vrai four d'ici la fin du siècle, on sait que ce n'est pas possible. Voilà.
Dans les forêts, on peut retrouver des parasites. Et dans nos forêts, quels sont les types de parasites qui se développent et comment on peut s'en débarrasser?
Alors, il faut déjà savoir que le parasite, il a toujours existé avec le vivant. Donc, il y a toujours eu des parasites endémiques dans nos forêts. D'accord ? En soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. C'est comme les virus chez nous. On a toujours vécu plus ou moins bien avec la grippe, etc. Le challenge, ce n'est pas de se débarrasser des parasites. C'est d'avoir des forêts qui puissent vivre avec, au mieux. D'accord ? Donc, on ne se débarrassera jamais du scolyte. Hein. On peut limiter, endiguer son expansion, par exemple, brutalement, en coupant des peuplements qui sont atteints du scolyte, d'accord ? En exportant le plus vite possible les produits issus de cette coupe, parce que les larves sont toujours vivantes sous l'écorce et elles peuvent toujours se disséminer. Si vous faites une coupe de produits scolytés, que vous les laissez 2 mois au bord de la coupe, les insectes, ils vont vivre leur vie, ils vont s'envoler, ils vont rester là, d'accord ? Donc, voilà. Mais le scolyte, il est endémique, il a toujours existé, il a toujours suivi l'épicéa. Et ma foi, il faisait des dégâts très limités tant que les conditions n'étaient pas catastrophiques. Donc, en réalité, c'est le vrai enjeu, c'est d'agir sur le changement climatique pour éviter les explosions de ces parasites. Il faudrait aussi penser à éviter d'importer de nouveaux parasites. Alors ça, c'est un autre problème. J'ai parlé, par exemple, là, d'un insecte, du scolyte. Je vais vous parler d'un autre parasite qui touche un autre arbre, le frêne, qui est un arbre très commun chez nous, un feuillu. Et il se trouve que depuis les années 80-90, il est la victime d'un champignon qui s'appelle Calara fraxinea et qui va décimer les peuplements de frênes. Or, en fait, il se trouve que ce parasite, il a été importé d'une pépinière polonaise où les frênes étaient élevé en forte densité, et de là, il y a eu une explosion de ce parasite. Donc là, on a l'exemple typique de l'importation d'un parasite. Et là, effectivement, celui-ci, maintenant qu'il est là, on ne peut plus s'en débarrasser. Et c'est pareil, il faut couper des frênes, etc. Et c'est pareil, ce parasite a tendance à mieux se porter avec les changements climatiques. Donc, le maître mot, en fait, c'est de revenir à un climat plus sain et moins perturbateur. Maintenant, on ne peut pas lutter contre des explosions de parasites très facilement. Il y a des luttes biologiques qui existent, mais qui n'ont pas montré une efficacité exceptionnelle. L'idée est aussi d'adapter nos peuplements, encore une fois, en mélangeant un maximum les essences au sein des forêts. Donc on ne va pas mettre tous nos œufs dans le même panier. En favorisant cette diversité-là, il y aura toujours des arbres qui s'en sortiront mieux. Et voilà.
On a vu que Benjamin Béchel nous a parlé de points d'écoute mis en place par les techniciens de l'ONF. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Des points d'écoute, alors il faudrait que tu précises un petit peu. C'est par rapport à la faune ?
On écoute les oiseaux, présents au même endroit.
D'accord.
On enregistre oui. Une heure les chants d'oiseaux et on compare d'une année à l'autre.
D'accord. Cette opération-là, à proprement parler, je n'y ai pas participé. Je peux te parler d'une autre mission qu'on fait régulièrement tous les printemps avec l'ONF, c'est l'écoute des petites chouettes de montagne, les chouettes tengmalm et chevêchettes. Donc on parcourt un transect hein, avec des points toujours les mêmes, géoréférencés, et on diffuse avec une petite enceinte Bluetooth le chant des chouettes en question. et on écoute les réponses des chouettes. Voilà, donc on fait une sorte d'inventaire comme ça, des réponses de chouettes. C'est un peu le même système, c'est des inventaires naturalistes, on va dire, auxquels j'ai pu participer. Les points d'écoute, je n'y ai pas participé, donc je ne peux pas t'en dire plus.
Ok, et est-ce que vous pouvez nous donner une règle afin de préserver nos forêts?
Ah, une seule. Alors, comme le principal ennemi des forêts aujourd'hui, c'est bien le changement climatique et aussi la surexploitation, mais en France, on n'a pas trop ce problème-là. On n'a pas les problèmes que peuvent rencontrer les forêts amazoniennes, par exemple, qui sont littéralement dévastées par l'homme aujourd'hui pour transformer la forêt en agriculture intensive ou pour le commerce du bois. En France, on a une surface forestière, il faut le savoir, qui augmente tous les ans. Hein. Il faut savoir qu'il y a une époque en France, au Moyen-Âge, il n'y avait presque plus de forêt, contre toute idée reçue, et au XIXe siècle, non plus. Donc la forêt, elle n'arrête pas de progresser en France, elle se porte plutôt bien en termes de surface. Mais pour la qualité et la santé de ces forêts, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est lutter, militer contre tous les acteurs responsables du changement climatique sur cette terre. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, qui font parler beaucoup d'eux dans l'actualité aujourd'hui. Et ça n'appartient pas aux forestiers. Malheureusement, nous, on est très démunis. On a nos outils à nous de gestion forestière. Mais on ne pourra pas sauver la forêt si le monde continue à tourner tel qu'il tourne. Donc, le premier enjeu, c'est déjà ça, c'est de lutter contre cet emballement. Et puis après, au niveau plus intime et plus individuel, la forêt, eh bien, il faut s'y promener, s'y perdre un petit peu, prendre le temps d'établir un lien de sympathie avec elle pour essayer de mieux la comprendre, s'y sentir bien. Ça, c'est le message le plus important que j'ai à donner à la jeunesse aujourd'hui. Et comme ça, vous aurez spontanément envie de la respecter et de la protéger. Hein, voilà.
Pour finir, si le Vercors était un son, quel serait-il ?
Le hurlement du loup.
Eh ben, merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis... Au revoir.
Merci à vous, c'était un chouette moment.